Vous écoutez France Culture.
Et bonsoir Jean Lebrun et bonsoir à tous. Suite et avant-dernière étape d'une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à l'épreuve du bac de philo. Le plus difficile avec le bac philo n'est pas l'épreuve en elle-même, mais l'idée qu'on s'en fait. De sorte que l'objet de ces émissions, de ces dissertations en direct, est à la fois de vous montrer comment un sujet se fabrique, se traite, les différentes façons de saisir une problématique et de l'ordonner, mais aussi de vous montrer que le bac philo n'est ni la mer à boire, ni un vol plané dans le ciel des idées, mais l'art élémentaire et précis de répondre à une question, fût-ce par une autre question. Après les professeurs de terminale François Pépin, Marc-Henri Harfeu et Samia Salah, qui vous ont respectivement parlé de raison, de temps, d'art et de vérité, c'est aujourd'hui Pascal Sévrac, professeur en terminale au lycée Jacques Brel de la Courneuve, qui vient pour vous se poser la question redoutable de savoir si l'illusion qui réconforte est préférable à la vérité qui dérange. Bonjour Pascal Sévrac.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue de nouveau sur France Culture, puisqu'on avait eu le plaisir de vous accueillir pour y parler de Spinoza. Et bonjour à ceux de vos élèves qui vous accompagnent aujourd'hui et qui vont assister à cette émission dans le studio 119 de la Maison de Radio France. Quoi de plus agréable pour un élève de voir plancher son maître, n'est-ce pas? Bien, alors planchons. L'illusion qui réconforte est-elle préférable à la vérité qui dérange? Un sujet magnifique où l'on pressent à la fois qu'il va falloir dire non, et peut-être choisir l'âpre vérité, mais où en même temps on a envie, face à ce sujet, peut-être, est-ce un premier réflexe, tout simplement de se dire pourquoi pas. Après tout, pourquoi ne pas préférer l'illusion qui réconforte à la vérité qui dérange?
Oui, pourquoi pas. Surtout qu'on pourrait se dire, comme ça, si on regarde ça de loin, les choses sont équilibrées. D'un côté, on a une illusion, d'autre côté, c'est la vérité. Alors peut-être qu'on ne doit pas trop rigoler avec la vérité. C'est du sérieux, donc il faudrait choisir toujours la vérité par rapport à l'illusion. Mais en même temps, c'est une illusion qui réconforte, source de plaisir, source de joie, source de soulagement. Et puis en face, on a une vérité qui dérange. Et dans ce dérangement, on peut peut-être voir quelque chose d'un peu fort.
Ce sujet renvoie d'ailleurs à une expérience tout à fait banale. Hein. Combien de fois dans la vie est-ce qu'on préfère s'oublier un peu, en somme, oublier un peu la machine, tout en sachant, en toute conscience d'ailleurs, qu'on oublie la machine, qu'on oublie le cours du temps, qu'on oublie l'âpre vérité.
Ouais, là, il y a deux choses. C'est en effet s'oublier, et peut-être qu'on peut aller encore plus loin. Plus que s'oublier, c'est se raconter un peu des films, se raconter des histoires qui arrangent un peu, s'arranger un peu avec la réalité, tout en ayant conscience. Et ça, je pense que c'est toute la difficulté du sujet. Parce que le sujet demande que... Qu'est-ce qui est préférable? L'illusion réconfortante ou la vérité dérangeante? Mais un des problèmes d'emblée que pose le sujet, et puis la problématique c'est ça, c'est voir quels sont les problèmes que pose le sujet. Un des problèmes c'est, mais est-ce que si je suis dans l'illusion, est-ce que j'en ai conscience? Est-ce que je le sais que je suis dans l'illusion? La conscience, c'est ce savoir qui accompagne notre existence. Donc est-ce que je sais que je suis dans l'illusion quand je m'illusionne?
En somme, votre sujet sous-entend que celui qui est dans l'illusion ne se fait pas d'illusion là-dessus. Il est au courant.
En tout cas, il va falloir se poser la question de savoir à quelles conditions la préférence est possible. Un choix est possible. À mon avis, pour pouvoir choisir entre deux choses, il faut quand même être un peu extérieur à ces deux choses. Donc ça voudrait dire, peut-être, et ce sera peut-être une première façon d'aborder le sujet, que la vérité qui dérange et l'illusion qui réconforte, ça se pose peut-être pas forcément d'emblée pour celui qui va subir cette vérité ou cette illusion, mais peut-être pour celui qui peut la produire vis-à-vis des autres.
Alors avant d'aller dans le détail du plan, hein, Pascal Sévrac, il faut revenir en amont, premier réflexe, hein, un futur étudiant peut-être qui passe le bac, qui est donc face à ce sujet, qui doit réagir d'abord à ce sujet, un conseil qu'on ne donnera jamais assez et qu'on donne à chaque fois, hein. Le premier réflexe d'un bon élève et d'une future qui donnera une future bonne dissertation, c'est de ne pas se dire d'abord « mais qu'est-ce que je sais là-dessus » ne pas commencer par mobiliser ses connaissances, peut-être commencer par donner toute sa chance à la question, à la singularité d'une question, à sa spécificité, à ses difficultés propres.
Ça, c'est surtout le danger, on va dire, de ceux qui savent des choses en philosophie. Et il y en a, à la fin de l'année, qui ont appris des choses et qui essayent de tirer le tiroir à connaissance.
Ceux qui boitent grâce aux béquilles qu'on leur donne.
Et qui essayent de se rattraper, de se récupérer sur un savoir. Alors bien sûr, on sauvera toujours un peu les dégâts. Il faut aussi ne pas être hypocrite en donnant des connaissances, en donnant au correcteur quelques biscuits à grignoter. Mais n'empêche que on n'arrivera pas à faire un bon devoir, en tout cas tout simplement avoir la moyenne, si on fait du hors-sujet, si on fait de la récitation de cours, si on n'a pas donné sa chance au sujet, en effet.
C'est-à-dire si on ne construit pas une problématique qu'on garde de façon quasi obsessionnelle en tête jusqu'au moment d'y répondre en conclusion.
Jusqu'au bout. Et puis même, je dirais, on y répond pratiquement tout le temps. C'est vrai que peut-être que la conclusion, c'est ce qui donne la synthèse, une réponse définitive. Mais peut-être que répondre à un sujet, c'est justement essayer de traiter des problèmes qu'il pose. Donc on répond même au sujet en première partie, même en troisième partie ou en deuxième. Bon, si on fait ces trois parties, on pourra en reparler de ça aussi. Mais en règle générale, c'est deux, trois ou quatre parties. Et il vaut mieux conseiller les trois parties qui sont, on va dire, assez équilibrées.
Oui.
Mais si on ne tombe pas dans la thèse, antithèse, synthèse.
Voilà, thèse, antithèse, foutaise. On le cite toujours, ça.
On a souvent du coup des plans binaires. La vérité est préférable. Deux, non, en fait, c'est l'illusion. Et trois, aller un peu des deux.
Mais ça détermine aussi la construction du plan. C'est-à-dire que le plan ne se fait pas par addition. On ne fait pas le catalogue dans une première partie de tous les arguments en faveur d'une position, puis le catalogue des arguments à la défaveur de cette position, puis ensuite l'espèce de catalogue synthétique des arguments qui réconcilierait les deux. Ça ne marche pas comme ça.
Et on ne le fait pas, non pas parce que c'est mal de le faire, mais on ne le fait pas parce que logiquement, on ne peut pas procéder comme ça. C'est-à-dire qu'on va caricaturer une position dans une première partie. On va dire tout l'inverse de ce qu'on a dit dans la première, c'est-à-dire qu'au fond, on ne croyait pas du tout à ce qu'on racontait dans la première partie. Et puis dans une troisième, on va dire finalement s'il y avait un peu de vérité dans la première et dans la deuxième. Donc, on ne peut pas faire comme ça parce que, de fait, si on veut croire un peu à ce qu'on dit, il faut qu'en première partie comme en deuxième, on défende vraiment quelque chose. Alors sans doute qu'à chaque fois, il y aura comme un dépassement ou comme une rectification, où on va pousser le bouchon un peu plus loin, on va voir peut-être un nouvel éclairage sur le sujet. Mais on ne peut pas faire, première partie, j'affirme que Dieu n'existe pas, deuxième partie, j'affirme qu'il existe, et puis en troisième partie, j'affirme une petite synthèse, oui, ça dépend, oui et non. Donc on a souvent ce type de plan binaire qui consiste à dire, au fond, oui, non, peut-être. Je pense que déjà, si un élève arrive à se débarrasser de ça, il va être obligé de trouver autre chose, et c'est déjà un point de gagné par rapport à la masse des problématiques qui se réduisent à ça.
Alors, sortons donc du plan binaire et rentrons dans le vif du sujet. On a vu quel était le bon réflexe à avoir face à un sujet comme celui-là. Maintenant, comment, à partir de l'analyse des termes, est-ce qu'on va construire une problématique, Pascal Sévrac ?
Alors, c'est vrai que là, sur ce sujet, on peut dire déjà il y a pas mal de termes à analyser. La vérité, qui dérange, l'illusion, qui réconforte, et puis, à mon avis, pour bien problématiser un sujet, il ne faut pas seulement se contenter des grosses notions majeures, la vérité versus contre l'illusion, mais aussi être attentif aux petits mots qui peuvent faire la différence. Et ici, à mon avis, j'essaierai de problématiser le sujet à partir du préférable, c'est-à-dire en se disant, comment préférer ? Et puis à partir de quels critères se fait une préférence ? C'est-à-dire, comment préférer, à quelles conditions d'abord une préférence est-elle possible ? La condition qu'on ait un vrai choix, c'est-à-dire que, comme je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, on ne soit pas complètement dans l'illusion, parce que celui qui est complètement dans l'illusion, il ne sait pas qu'il l'est. Donc il n'y a pas pour lui de vérité ou d'illusion à préférer. Il est dans son illusion, dans sa croyance, alors ce serait temps de donner une première définition peut-être de l'illusion. La vérité, on peut dire que c'est le fait d'avoir une parole, un discours ou une pensée en conformité avec la réalité. C'est une première définition basique, on pourrait la raffiner, mais on se contentera de ça, en tout cas, comme définition préliminaire dès l'intro.
En somme, il y a d'un côté une illusion consciente d'elle-même, et de l'autre côté, une vérité qui se contente de dire ce qui est.
Voilà. Alors, l'illusion, qu'est-ce que c'est ? Ça va être une fausse apparence, une apparence qui ne correspond pas à la réalité. Ça, c'est, on va dire, la définition en première approche de l'illusion. Après, on y est plus ou moins dans l'illusion. Parfois, on y est complètement. Et dans ce cas-là, on peut se demander est-ce que le sujet a encore une pertinence si on est complètement dans l'illusion, puisqu'on ne peut pas préférer autre chose. Celui qui est dans l'illusion, il ne le sait pas. Il se fait des films, il prend ses désirs pour la réalité, mais il ne le sait pas. Donc, le sujet n'est possible que pour quelqu'un qui est dans l'illusion, tout en soupçonnant quand même que c'est peut-être pas tout à fait la vérité, justement.
Et qu'il y aurait peut-être d'ailleurs un réconfort à la vérité, mais ça on le verra plus tard. Avec vous, Pascal Sévrac. Alors, résumons toutes ces considérations, puisqu'on débroussaille le sujet, l'analyse des termes, résumons ces considérations peut-être en une question qui nous servirait de fil conducteur. Vous proposeriez quoi ? De reprendre par exemple l'intitulé du sujet ? On a aussi le droit de faire ça pour obtenir une problématique, quand l'intitulé du sujet est clair, comme c'est le cas ici.
Alors, pour la problématique, il faut un cœur de problématique. Donc, il faut en effet une question. Après, elle peut se subdiviser en deux ou trois questions qui seront justement les questions que traitera chacune des parties. Mais il faut quand même un cœur de problématique. Moi, tout simplement, mon cœur de problématique, ce serait à quelles conditions on peut préférer l'illusion à la vérité ou la vérité à l'illusion, et surtout, à quelles conditions, selon quels critères ? Selon quels critères est-il possible de préférer l'illusion à la vérité, ou la vérité à l'illusion ? Préférer, ça veut dire faire passer quelque chose devant ou au-dessus d'autre chose. Donc, quel est le critère ? Et là, on pourrait peut-être, dès l'intro, dire qu'il peut y avoir, au moins, je dirais, deux critères. Un critère, on va dire, moral. Il y a le critère... on va dire, selon une morale du principe. Il y a ce qui est bien, et peut-être que la vérité, c'est toujours mieux que l'illusion, parce que la vérité est du côté du bien, et que ce qui n'est pas la vérité serait du côté du moins bien, voire du mal. Et puis, il y a peut-être, derrière ce...
Un critère existentiel.
Oui, un critère existentiel, exactement, qui c'est peut-être, par exemple, le critère du plaisir, ou le critère de la conservation, ou le critère... De l'affirmation de sa puissance.
De la joie, j'allais dire.
Oui, une joie. Si on cherche la joie, bah, du coup, on pourra donner sa chance à l'illusion. Parce que l'illusion qui réconforte, c'est l'illusion productrice de joie, d'un soulagement, par exemple. Et donc, on pourra peut-être défendre la position de l'illusion, qui en philosophie a été défendue, mais qui est moins défendable, comme ça, immédiatement, que la position de la vérité. On pourra peut-être défendre la position de l'illusion si on montre que ce que recherche un être vivant, eh bien, c'est pas seulement la vérité, il n'est pas seulement mu, poussé par une volonté de vérité, mais aussi par une volonté de se conserver, et même de plus que ça, une volonté de puissance, une volonté d'affirmation de son être dans la joie.
Alors, allons-y. Hein. On a bien compris que la problématique, là, c'était la question des critères de préférence. Hein. Comment préférer l'illusion qui réconforte à la vérité qui dérange ? Vous avez posé deux critères, le critère moral et le critère existentiel. C'est en faisant jouer ces deux critères qu'il va falloir construire un plan. D'abord, une toute petite question. Il n'est pas nécessaire pour un élève, au terme de son introduction, d'annoncer son plan. Est-ce que l'intitulé de la problématique ne suffit pas ?
Alors, ce que je conseille aux élèves, c'est, si jamais ils n'annoncent pas leur plan, d'avoir des petites questions, c'est-à-dire un cœur de problématique qui peut se subdiviser en deux, trois questions qui vont montrer quand même les orientations pour qu'on ne leur fasse pas le reproche. On ne sait jamais. On peut tomber sur un correcteur un peu pointilleux qui se dise « mais bon, il est où son plan ?» Mais ce qui compte, c'est de construire vraiment son devoir, c'est-à-dire son développement, ce qui vient après l'intro.
Oui,
si on a une construction, le plan apparaîtra.
N'ayez pas peur, hein, il faut dire aux élèves, n'ayez pas peur de vous répéter, d'ailleurs, hein, d'annoncer le plan et puis de revenir dessus ensuite.
Ouais, j'avais un collègue qui disait quelque chose de bien, il disait « il faut peindre l'échafaudage en rouge ». Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Et il faut quand même, à chaque fois qu'il y ait des signaux envoyés au correcteur, en lui disant « j'en suis là, je vais là ».
Voilà, il faut tenir le correcteur par la main, en somme. Voilà. Hein, il a plein de copies à corriger, il est de mauvaise humeur, il en a marre, il a mal à la tête. Une copie qui le tient par la main est une copie qu'il accueillera plus favorablement.
Mais plus que de faire des périphrases ou des métaphrases du genre « j'ai dit ceci, maintenant je vais dire cela », le mieux c'est peut-être, quand on passe d'une partie à une autre, par exemple, de poser une question ou de synthétiser faut que ce soit, à mon avis, des transitions davantage logiques que rhétoriques. Donc ne pas dire « maintenant j'arrive à ma deuxième partie » parce que ça se voit, on va sauter une ligne ou deux, et puis ou « maintenant j'arrive à ma première partie », mais plutôt envoyer une petite question, juste avant peut-être avoir fait une petite synthèse, montrer de fait ce qu'il peut y avoir d'insuffisant ou de partiel.
Ce qui justifie qu'on infléchisse voilà. Le point de vue.
Et qui fait qu'on se dit « bon allez, on va dans une nouvelle direction ».
La bande originale de Mulholland Drive dans les nouveaux chemins de la connaissance pour illustrer ce sujet sur l'illusion et la vérité en votre compagnie, Pascal Sévrac. Vous êtes notre invité aujourd'hui. C'est la quatrième étape d'une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent au bac philo. Quatre étapes, c'est-à-dire quatre dissertes. Aujourd'hui donc, l'illusion qui réconforte est-elle préférable à la vérité qui dérange? Alors, on a construit la problématique, on a l'introduction, on a les principes de l'introduction et la méthode et la façon de faire. Allons maintenant dans le vif du sujet ou le cœur du devoir, c'est-à-dire son début, c'est-à-dire le plan, c'est-à-dire la première partie.
Alors la première partie, il ne faut pas qu'elle soit seulement thématique, c'est-à-dire qu'elle tourne autour d'un thème, mais qu'elle soit aussi problématique, c'est-à-dire qu'elle tourne autour d'un problème, d'une question. Si elle n'était que thématique, je dirais que elle peut partir du point de vue de celui qui est extérieur à l'illusion et à la vérité, qui peut soit communiquer une vérité à autrui, soit jeter autrui dans l'illusion.
Exemple ?
Par exemple, le médecin qui connaît une certaine vérité sur la pathologie de son patient, ou bien il peut lui dire la vérité, même si elle est parfois très dérangeante, ou bien il peut la contrefaire, la déformer, la masquer et essayer de produire en l'autre une illusion.
C'est-à-dire un médecin qui est attentif à l'état de santé de son patient, qui sait la place que prend la psychologie, par exemple, dans le traitement d'une maladie, et qui est face à un homme qui a un cancer, doit-il lui dire qu'il a un cancer ou non? En termes, non pas moraux ici, mais en termes d'efficacité stricte. Est-ce que ce n'est pas contre-productif pour le traitement lui-même que de lui dire la vérité?
Exactement, on pourrait se dire « la foi sauve aussi ». Et le fait d'y croire, le fait de croire en une rémission possible, contribue en partie, surtout si on ne sépare pas complètement le corps et l'esprit, ça contribue en partie au rétablissement. Et en tout cas, on sait très bien que quelqu'un qui est désespéré et qui ne croit pas du tout en sa guérison, il a quand même moins de chances, et ça c'est statistiquement prouvé, que quelqu'un qui y croit. Maintenant, c'est sûr. Le fait d'y croire ne suffit pas.
C'est-à-dire que, revenons là-dessus, si on ne dissocie pas le corps et l'esprit, si on est dans une logique, comme son nom l'indique, psychosomatique, donc qui mêle l'esprit et le corps, une logique spinoziste, où l'esprit n'est que l'idée du corps, et réciproquement d'ailleurs on pourrait dire, donc cette logique psychosomatique implique qu'on réévalue l'illusion, éventuellement au dépens de la vérité, et peut-être d'ailleurs pour une vérité supérieure qui serait celle de la guérison. Restons sur l'exemple du malade un instant.
Tout à fait, on pourrait se dire, mais alors justement, en même temps, il faut qu'on ait dans l'esprit nos deux critères, critères moral, critères existentiel, critères du principe, critères, on va dire, des conséquences. Est-ce que j'adopte une position de principe quand je suis médecin et je me dis... La vérité, rien que la vérité. Il a le droit à la vérité. C'est une vérité qui le concerne intimement, qui concerne sa vie, qui concerne sa mort. Je n'ai pas le droit de masquer quoi que ce soit de ce que je sais. Je dis la vérité avec ménagement. Il ne s'agit pas d'être brutal. Mais je dis tout ce que je sais, rien que tout ce que je peux savoir sur cette question. Ou bien, en effet, on peut adopter un critère plus existentiel quand on est ce médecin et se dire... qu'est-ce que je dois dire en fonction des conséquences que ça peut provoquer pour le patient que j'ai en face de moi? Est-ce qu'il a les épaules assez larges pour supporter l'annonce d'un cancer qui signifie 3 à 6 mois de vie statistiquement? Est-ce que je ne cache pas certaines choses? Alors, ce calcul au fond des conséquences, il peut être fait de manière égoïste. Le médecin peut se dire, si je ne dis pas la vérité, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je ne vais pas avoir des ennuis, des reproches, un procès sur le dos? Dans ce cas-là, c'est un calcul des conséquences existentielles, mais où seulement son propre intérêt est pris en compte. Et peut-être va-t-il préférer dire la vérité, non pas par moralité, justement, non pas parce que c'est un principe et qu'on ne tergiverse pas avec les principes, mais simplement parce que...
Pour qu'on ne puisse pas lui reprocher de ne pas l'avoir
exactement,
fait.
Exactement. Parce que les conséquences, comme ça, seront pas nuisibles pour lui. Et puis, il peut aussi prendre en compte l'intérêt du patient et se dire, bon... Et d'ailleurs, dans la réalité, sans doute que tout est pris en compte, tout se mélange un peu. Quelqu'un qui ne part pas du principe absolu qu'il faut dire la vérité, ben, il va essayer peut-être de ménager un peu l'autre dans l'illusion ou un peu de lui dire la vérité, mais il va prendre aussi en compte son intérêt. S'il pense peut-être que le patient peut supporter cette vérité un peu dure, voire carrément affreuse, eh bien, sans doute qu'il va la lui communiquer. Mais peut-être qu'il peut jouer sur le fait que psychologiquement, ce n'est pas la chose la meilleure à faire.
Si on est dans le calcul des conséquences, ce n'est pas un hasard que vous parliez de médecine, hein, puisque c'est une science dont, depuis Aristote, on sait qu'elle ne relève pas de la raison pure. Hein. On sait qu'elle relève de l'intuition,
un art,
d'une forme d'intuition ou même d'une forme de prudence, c'est-à-dire une façon de s'adapter aux circonstances. D'ailleurs, la même pathologie ne doit pas recevoir le même traitement ni le même discours. Il faut s'adapter à la psychologie de celui qui est en jeu ici, dont l'existence est en, dont la vie est en jeu, pas seulement l'existence, de sorte que la médecine ne relève pas de l'ordre des sciences exactes. Alors si on va peut-être au-delà de ça, deux questions, Pascal Sévrac. D'abord, est-ce que quand on n'est pas en présence d'une science exacte, est-ce qu'il faut dire que l'illusion qui réconforte est préférable à la vérité qui dérange ? Première question. Et deuxièmement, on a vu ça pour la médecine, mais il y a d'autres registres où ça n'est pas une science exacte et où la question se pose. Deux exemples très simples, l'économie et la politique. Est-ce qu'un ministre du budget, par exemple, a tout intérêt à grossir les chiffres prévisionnels de la croissance pour stimuler les investisseurs, pour leur dire « allez-y en confiance », c'est-à-dire à mentir en toute connaissance de cause pour développer un investissement et peut-être réaliser, ou plus exactement avérer ce qui au départ était un mensonge ? Numéro un. Et deuxièmement, est-ce qu'un homme politique n'a pas tout intérêt à dire aux gens « mais vous inquiétez pas, tout va bien, tout est sous contrôle ».
Alors, il a peut-être tout intérêt pour lui. Est-ce qu'il a même tout intérêt du point de vue de la collectivité ?
Mais c'était ça, ma question.
Voilà, c'est une vraie question. En même temps, il se trouve qu'il n'a pas affaire non plus à une masse d'imbéciles et d'abrutis qui prend au premier degré ce qu'on lui dit. Et c'est même le cas aussi du patient. Le patient, il a Internet à disposition. L'électeur, il a, ou le citoyen, il a les médias à disposition. Et donc, il faut que le calcul que fasse soit le médecin, soit le politique, soit assez subtil. Parce que s'il dit « tout va bien, allez-y, investissez, croyez en l'avenir », et c'est assez démenti par les échos qui viennent de l'extérieur... Il aura perdu toute crédibilité.
Les échos, c'est le mot, pas le journal.
Hein. Oui, c'est le mot. Mais en même temps, en effet, il ne faut pas qu'il désespère complètement les troupes. Il doit jouer avec les affects de la multitude, comme dirait Spinoza.
C'était le sens de ma question, puisque dans la préface au traité théologico-politique, qui est peut-être un texte qui trouverait sa place ici, Spinoza explique que, bien sûr, la religion n'est pas une théorie de la connaissance. Il ne faut pas le confondre. Mais en même temps, l'espoir ou la crainte ne sont pas, si j'ose dire, des valeurs sûres. Mais ce sont des valeurs stables. C'est-à-dire que comme on ne peut pas obtenir de tout le monde qu'ils vivent selon les lois de la raison, peut-être vaut-il mieux que les hommes commettent des péchés, mais en suivant l'espoir ou la crainte, peut-être la meilleure façon de domestiquer la multitude, hein, de dompter la multitude, hein, Spinoza reprend une formule qui ressemble à celle-là, peut-être la meilleure façon de le faire, c'est de proposer des institutions, des morales absolues, bref, ce qui relève de l'illusion et non pas de la vérité, non pas de la connaissance, mais qui serait à la hauteur du peuple.
Spinoza dirait tout à fait qu'il faut jouer avec ses ressorts psychologiques. J'en parle à dessein, puisque en ce moment, on est en train, en cours, de travailler sur la liberté et sur le respect de la liberté d'autrui. Qu'est-ce qui fait que la coexistence commune est possible et que même, on peut dire, un groupe va de l'avant ? Eh bien, c'est avant tout la peur du châtiment ou l'espoir de la récompense. Donc, il faut jouer sur ce couple espoir-crainte parce que, on ne peut pas parier sur la seule rationalité de la multitude. On doit avant tout, et c'est là que sa puissance est composée d'affects, on doit avant tout compter sur ses sentiments que sont l'espoir et la crainte, parce que c'est à travers ces sentiments-là que l'on vit, que la vie réelle se fait. Donc, de fait, il va falloir compter sur ces sentiments-là. Maintenant, Spinoza dirait, une multitude qui est gouvernée par l'espoir, elle est plus libre quand même que celle qui est gouvernée par la crainte. Donc, celle qui vit dans la peur du pouvoir, celle qui vit dans le sentiment d'insécurité, celle qui vit dans la crainte de l'avenir, elle sera toujours moins puissante. Et du coup, même, son chef sera moins puissant que la multitude qui est renforcée par la joie qui est propre à l'espoir. Donc, mieux vaut la gouverner par l'espoir que par la crainte. La crainte peut aussi donner des mouvements de violence. Et Spinoza était très réservé sur la question de la révolution, sur la question du renversement de pouvoir, etc. Donc, s'il y a une illusion à entretenir, c'est l'illusion, mais de toute façon, c'est à celle-là qu'on croira le plus. C'est l'illusion qui réconforte, justement. Dire la vérité d'un point de vue politique, alors ça, c'est aussi ce que disait Pascal, mais ça peut à la rigueur parfois être utile à ceux à qui on l'a dit, mais c'est toujours nuisible à celui qui l'a dit.
Dans son discours de Riyad, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a dit « L'intérêt de la République, c'est qu'il y ait beaucoup d'hommes et de femmes qui espèrent ». Est-ce que c'est une phrase que Spinoza pourrait reprendre à son compte ?
Il pourrait la reprendre, en effet.
Au motif, justement, que l'espoir permet de bien se tenir.
Tout à fait.
En somme, que l'espoir, c'est l'alibi de la résignation. Ça permet, précisément, non pas la révolution, mais bien au contraire, que les passions s'expriment et que surtout, les individus se tiennent bien, puisqu'ils sont mus par l'espoir d'un ailleurs.
Quitte à être mus par une passion, mieux vaut l'espoir que la crainte. Ce qu'on peut quand même rétorquer, c'est que, de la part d'un président, on peut aussi espérer en la raison. Donc, peut-être aussi vouloir développer la rationalité et pas seulement des sentiments. Et puis, derrière cet espoir, il n'y avait pas seulement un espoir, on va dire, laïque et un espoir politique. Il y a aussi l'idée que ce qui nous fait espérer, c'est avant tout la religion. Et donc, ce discours à Riyad était là pour dire, il faut une laïcité ouverte. Et d'ailleurs, la formule est tout à fait possible. Une laïcité ouverte parce qu'elle doit être ouverte à la religion qui, elle, est motif d'espoir. Or, justement, c'est là qu'on est dans un nœud de problème. Oui, la religion fait espérer, mais en même temps, la religion, parfois, cultive l'ignorance. Or, une politique ne doit pas complètement renoncer à la raison ou à la connaissance au nom, justement, du réalisme des affects.
Et dans la perspective qu'on développe, Pascal Sévrac, est-ce qu'on ne sous-entend pas que la religion relève de l'illusion, alors que la religion est une, dans cette perspective-là, serait une illusion qui se prendrait pour la vérité ? Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, qu'est-ce qui, de toutes les remarques qu'on vient de faire, conduit à la nécessité d'infléchir notre propos et donc de passer à une deuxième partie ?
Disons que dans cette première partie, on s'est posé la question de savoir est-ce que c'est un critère absolument moral qui doit nous déterminer ou est-ce que c'est le calcul des conséquences. Il faudrait, je pense, insister en fin de cette première partie sur le fait que, bien, sans avoir à renoncer à la vérité, comme je l'ai dit, sans avoir à renoncer à la raison, il faut quand même prendre en compte les puissances de l'imagination et les puissances de l'illusion. Et la religion, en ce sens, a sa puissance, car elle joue en tout cas sur ces affects-là. Et donc, ma deuxième partie jouerait sur le fait que cette puissance de l'illusion, elle a un effet d'entraînement et elle peut nous amener à être revalorisée parce qu'elle permet, la puissance de l'illusion, peut-être de mener une vie qui justement est tournée vers ces renforcements de puissance. Alors là, je suis un peu abstrait, mais tout simplement, dans ma deuxième partie, il y aurait l'idée que peut-être que l'illusion n'est pas le contraire de la vérité, mais l'illusion est le fond de l'affaire.
On y va, on va y aller.
Lightly used, second hand. They were lovely illusions, reaching high. built on sand. They had a touch of paradise, a spell you can't explain. For in this crazy paradise, you are in love.
In Love with Pain, Want to Buy Some Illusions, c'est Ute Lemper. Et Pascal Sevrac, qui est notre invité aujourd'hui dans cette semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent au bac philo. Aujourd'hui, l'illusion qui réconforte est-elle préférable à la vérité qui dérange? On a développé un certain nombre d'arguments dans la première partie en faveur de cette position. Hein. On a parlé de médecine, de politique, d'économie, d'utilisation également de l'institution religieuse. Institution religieuse qui est souvent défendue par ceux qui refusent de faire de la religion justement une théorie de la connaissance, au motif que l'illusion peut avoir des vertus sociales. On a parlé de Spinoza. Et on va rester sur Spinoza pour cette deuxième partie, puisque vous proposiez dans la deuxième partie, parce qu'elle se verra que l'illusion soit en somme le fond de l'affaire, comme vous l'avez dit avant qu'on s'interrompe. Est-ce à dire que, comme le prétend Spinoza, l'illusion n'est pas un déni, mais un début de connaissance, et qu'en somme, il ne s'agirait pas d'opposer l'illusion et la vérité, mais peut-être de faire partir la vérité de l'illusion elle-même.
En effet, peut-être que l'illusion n'est pas une pure négativité. L'illusion, ce n'est pas seulement l'absence de la vérité, c'est déjà quelque chose, c'est déjà une certaine manière de connaître, d'appréhender la réalité. Et c'est peut-être celle dans laquelle chacun se meut. Au début, on sait bien que l'enfance, c'est l'âge des histoires qui marchent bien, c'est l'âge des mythes, c'est l'âge des récits auxquels on adhère pleinement. Et on peut se dire que peut-être, si on aime tant les fictions dans la vie, si on aime aller au cinéma et tout en sachant bien que c'est un film, y croire à fond, c'est donc qu'il y a une puissance, une vertu de l'illusion. Et Spinoza d'ailleurs dirait, l'imagination et même l'illusion, elle est positivité et puissance, surtout si on sait que c'est de l'imagination et de l'illusion.
Il prend l'exemple du soleil.
Exactement.
Rappelons-le cet exemple, hein, parce que c'est un exemple magnifique et puis limpide pour le coup.
Il nous dit, on voit le soleil tourner autour de la Terre, du moins je le vois se lever le matin, je le vois se coucher le soir. Là, il y a une positivité de cette imagination.
Une boule jaune à 200 pieds de moi.
Une boule jaune à 200 pieds de moi, c'est comme ça que je me représente le soleil. Et le plus grand astrophysicien qui connaît la réalité du système solaire, qui connaît, comme dirait Spinoza, le rapport de mouvement et de repos entre ces différents corps célestes que sont la Terre, le Soleil, eh bien, il continue quand même à se réjouir d'un coucher de soleil. Il verra encore cette chose-là, qu'est le coucher de soleil. Donc il y a une positivité.
La connaissance de la vérité ne dissout pas, ne dilue pas l'illusion.
Exactement, ça ne détruit pas l'illusion, parce que l'illusion, ce n'est pas que de la négativité. C'est aussi la positivité d'une forme de représentation, d'une manière d'être au monde, d'une certaine approche de la réalité qu'on doit défendre, donc, surtout si elle est source de joie.
Donc il s'agit ici de ne pas opposer l'illusion à la vérité, mais de travailler la notion d'illusion de manière à finalement réconcilier les deux termes.
Oui, sans doute. Alors maintenant, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs chez Spinoza, c'est que c'est à la fois un philosophe...
Il parlerait de vérité partielle, lui, hein, à propos de l'illusion.
De vérité partielle, en effet. Ça a d'idées inadéquates, c'est-à-dire en effet tronquées, partielles. On voit un certain aspect de la réalité, mais qui en lui-même est purement et intrinsèquement positif. Il n'y a rien à enlever. Il y aurait plutôt à compléter. Il y aurait plutôt à rajouter. Il y aurait plutôt à comprendre pourquoi on voit cette chose comme ça. Justement. Parce que qu'est-ce que c'est qu'idée adéquate ?
Il faut avoir l'idée adéquate de la raison pour laquelle on a une idée inadéquate.
Exactement. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? C'est comprendre pourquoi on est dans l'illusion, en gros. Et ça ne dissout pas l'illusion. Ça fait juste qu'on a cette pensée de derrière, comme dirait Pascal, et qui fait qu'à la fois on est dans l'illusion, on peut en jouer. Rappelons que l'illusion, ça vient de ludere, du latin ludere, qui a donné ludique, ludothèque, et qui signifie jouer. Et donc, l'illusion, c'est ce qui se joue de nous. Mais justement, quand on a un rapport plus actif à l'illusion, eh bien, c'est ce avec quoi on peut jouer. Et c'est pour ça qu'on aime jouer avec des illusions, que ça va du spectacle de magie jusqu'au cinéma et même sans doute au récit de soi ou d'autrui qu'on aime à lire ou qu'on aime à raconter.
Mais là encore, Pascal Sevrac, j'ai envie de vous proposer l'interprétation politique, justement. Si on est dans le cas, alors dans le cas d'une démocratie, tout va bien, mais si on est dans le cadre d'une dictature, où on a un tyran qui se divinise lui-même et qui propose à son peuple, enfin qui impose à son peuple d'ailleurs, de le regarder comme un dieu. Aucun des individus de ce peuple n'ignore qu'il n'est pas un dieu. Tout le monde sait que Mussolini est un homme comme les autres. Et pourtant, à quoi tient le fait que certains acceptent de jouer le jeu? À quoi tient ce jeu, non pas de la servitude, ou peut-être est-ce la même chose d'ailleurs, ce jeu de l'illusion volontaire?
Oui, ben là je crois qu'on est au cœur de la chose. C'est que dans l'illusion, on n'est pas seulement un sujet passif qui subit une situation. On est vraiment un sujet actif qui participe, qui désire. Freud dirait qu'il n'y a pas d'illusion sans un désir de croire. Et donc, sans doute que l'homme est désir de vérité, mais il est aussi énormément désir de croire. Désir d'une représentation, surtout d'une représentation qui permet une certaine affirmation de notre vie, de notre existence. Donc, en effet, on sait très bien que ni Staline ni d'autres ne sont absolument des dieux sur Terre, mais ou même des petits pères des peuples. On le sait que c'est pas. Mais symboliquement, il y a un réconfort à le croire. Il y a un désir et il y a un très beau film sur cette question du désir qui est dans l'illusion. C'est Vertigo. De Hitchcock. Vertigo, c'est surfroide en français. C'est un film de 58, 1958.
Sur le vertige.
Et sur le vertige, exactement. Le vertige, c'est celui qu'a James Stewart, qui joue le rôle de Scotty, qui d'ailleurs est un policier à la retraite, ou en tout cas un policier qui s'est sorti du rang parce que justement, il avait ses vertiges et que ça nuit. Et donc, il est engagé par un de ses anciennes connaissances, à surveiller une femme, qui est la femme de l'homme qui l'engage, parce que l'homme soupçonne qu'elle est peut-être folle. Et puis, il tombe éperdument amoureux de cette femme, qui s'appelle Madeleine, qui est jouée par Kim Novak. Et Madeleine lui dit... Madeleine, elle est... En fait, c'est cette femme... L'histoire est assez compliquée, mais cette femme est
Madeleine n'est pas Madeleine.
Madeleine n'est pas Madeleine. Cette femme, elle est jouée par une actrice dans le film. Elle est jouée par quelqu'un qui se fait passer pour Madeleine, qui a été engagé par le mari. Le mari qui, en fait, a déjà trucidé la vraie femme.
Et de sorte qu'il tombe amoureux de l'illusion de Madeleine.
Il tombe amoureux de l'illusion de Madeleine. Madeleine est censée être suicidaire ou un peu folle. Il y a un très beau passage, c'est pour ça qu'il faut voir le film en anglais, où Madeleine lui dit « I'm not mad ». Je ne suis pas folle. Mais en fait, elle lui dit, je ne suis pas Madeleine. Mais bien sûr, il n'entend pas. Il n'entend pas parce que ce qu'il
parce
veut...
Parce qu'il est amoureux de son illusion.
Parce qu'il est amoureux de son illusion. Et elle va tomber aussi dans ce truc-là, parce qu'elle va tomber amoureuse de Scotty. Et donc, quand... plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un faux suicide, mais dont ne se rend pas compte Scotty. C'est-à-dire que le mari jette du haut du clocher la vraie femme... Madeleine, enfin celle qui se faisait passer pour Madeleine, elle survit, mais Scotty n'a pas pu monter en haut du clocher parce que justement il a le vertige. Et donc le mari avait calculé qu'il n'arriverait pas. Et donc il assiste impuissant, Scotty, ce policier amoureux, il assiste impuissant au suicide, qui est en fait un faux suicide, de celle qu'il aime. Et donc, il tombe dans une dépression pas possible.
De sorte qu'il assiste ensuite à la résurrection de celle dont il croyait la mort.
C'est tiré d'un film qui s'appelle « D'entre les morts ». C'est vraiment un film sur les morts vivants. Alors, pas avec d'affreux Jojo qui viennent nous mordre, mais c'est un peu ça. Madeleine, elle est à la fois morte pour Scotty, mais elle est vivante complètement dans son souvenir, au point qu'il la voit partout. Il se promène dans la rue, il voit Madeleine partout. Jusqu'au moment où il tombe, et bien sûr,
l'actrice,
c'est-à-dire celle qui se faisait passer pour Madeleine, qui avait été payée et qui retrouvait un petit métier, un petit boulot, et qui n'est plus du tout, bien sûr, dans le look de Madeleine. Autant Madeleine était vaporeuse, autant la nouvelle est aguicheuse. Autant Madeleine était en retrait, était blonde, autant celle-ci, elle est rousse, très maquillée. Bon, c'est pas du tout la même femme. Et pourtant, il se dit, et nous-mêmes, on se dit ça aussi parce qu'on ne sait pas encore le fin mot de l'affaire. On se dit, ah tiens, c'est troublant. En effet, il retombe. Qu'est-ce qu'il fait ? Il projette sur elle. Il est encore dans cette illusion réconfortante qui consiste à retrouver celle qu'il a aimée, qui est morte dans une personne vivante. Ou est-ce qu'il est tombé sur vraiment une personne ? C'est très troublant.
En fait, c'est parce qu'il est paranoïaque et qu'il croit la voir partout qu'il finit par la retrouver pour de vrai.
Exactement. Cette illusion fait qu'il va rencontrer d'une certaine manière une forme de réalité, de vérité même. Et elle est amoureuse de Scotty. Et qu'est-ce que veut Scotty ? Il veut la reconfigurer en Madeleine, c'est-à-dire changer sa coiffure, changer ses vêtements, retrouver cette Madeleine qu'il pense être morte, mais la retrouver en cette femme. Et petit à petit, elle, au début, elle a quelques résistances, mais elle aussi, elle se prend au jeu de cette illusion. Pourquoi ? Parce que c'est au fond le jeu de l'amour, et qu'elle sait qu'elle ne pourra reconquérir ce policier qui est amoureux d'elle que si elle se retrouve en Madeleine.
On comprend ici, à vous entendre, à quel point, par exemple, Hitchcock est aussi pertinent que Platon, à condition de bien le travailler dans une dissertation de philosophie. En somme, il n'y a pas de noble, ou des exemples plus ou moins nobles, ignobles aussi peut-être, mais nobles ou moins nobles, en tout cas, exemple. L'essentiel, c'est la façon de les traiter. Alors, Pascal Sévrac, comme le temps passe, et qu'il nous reste 10 minutes, on a vu donc en quoi l'illusion pouvait être le fond de l'affaire, et en quoi, paradoxalement, par le biais de l'illusion qui réconforte, on pouvait en venir à une vérité qui réconforte, et non plus une vérité qui dérange d'ailleurs. Alors, je voudrais savoir, est-ce là ce qui justifie qu'on en vienne à l'examen cette fois-ci de la question de savoir dans quelle mesure l'illusion ne dérange pas et la vérité ne réconforte pas ? C'est-à-dire, exactement, inversant les termes. Rappelons que le sujet, c'est en quoi l'illusion qui réconforte est-elle préférable à la vérité qui dérange ? Ici, on en viendrait à dire que l'illusion dérange et que la vérité réconforte.
Bien, disons que cette illusion... avec vertigo, on pourrait dire, elle arrange jusqu'au moment où on est face à la réalité. Donc il faudrait, au fond, lorsqu'on se satisfait de l'illusion, faire le pari que l'illusion est éternelle, qu'elle a la même éternité que la vérité. Et c'est là, on sent bien ce qui ne va pas. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas trop qu'on nous mente ou qu'on n'aime pas trop être trop longtemps dans l'illusion. Parce que cette illusion peut se retourner, on peut en voir l'envers et on peut dire plus dure sera la chute. Est-ce qu'il ne fallait pas en passer par la dureté de la vérité, qui est un passage obligé, pour arriver à quelque chose de plus stable, arriver à une certaine sérénité grâce à la vérité, plutôt que se faire de faux espoirs, en gros. Que ce soit le patient à qui on ment, que ce soit Scotty qui délire sur celle qui revient d'entre les morts, à chaque fois, la chute est très dure dans le... Dans le film de Vertigo, c'est le cas de le dire. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, eh bien, on pourrait se dire, même du point de vue du critère du plaisir, que peut-être la vérité, le jeu en vaut la chandelle, que peut-être la vérité doit être recherchée ou communiquée jusqu'au bout, non pas parce qu'il y aurait un devoir moral de vérité, mais parce que, même du point de vue existentiel, c'est elle qui peut... nous réconforter le plus.
En somme, le critère existentiel l'emporte ici sur le critère moral dans le choix de la vérité contre l'illusion. C'est au nom d'un mieux-être, en somme, qu'il faut favoriser la vérité plutôt que l'illusion. Quels exemples vous donneriez à l'appui de cette thèse ultime, Pascal Sévrac ?
Alors, des exemples, je pense qu'on pourrait en trouver dans le quotidien sur le fait que la déception est d'autant plus grande qu'on s'est fait des films, comme on dit. Souvent, et quand vous demandez aux élèves, ils vous disent non, moi, je préfère qu'on me dise tout de suite, je ne veux pas être bercé d'illusions. Pourquoi je ne veux pas être bercé d'illusions ? Parce qu'on pense à l'après. Il faudrait que l'illusion subsiste. Si elle ne subsiste pas, c'est vrai que c'est très difficile. Moi, je ferai ce pari sur la vérité, au fond, dans ma troisième partie.
Et pourtant vous n'enrobez la vérité d'aucune saveur. Il n'y a pas de bien, comment dire, la vérité est âpre, elle est difficile, elle est douloureuse à entendre. Vous ne dissimulez aucune des difficultés de la vérité. Il ne s'agit pas de maquiller la vérité, puisqu'on retomberait dans l'illusion à ce moment-là.
Exactement.
Et pourtant, vous la choisissez, le problème reste entier quand même.
Non, parce que je distinguerais peut-être ce sur quoi porte la vérité et ce qu'elle nous apporte. Ce sur quoi elle porte, c'est souvent quelque chose de dur. Une vérité sur nous-mêmes, c'est jamais agréable à entendre. C'est jamais agréable dans son contenu. Mais qu'est-ce que la vérité ? C'est quand même ce avec quoi plus tard on pourra jouer, ce avec quoi on pourra presque rire, ce avec quoi on aura une certaine forme de maîtrise et de distance. Et ce qu'elle apporte donne beaucoup plus de puissance que la tristesse sur quoi elle porte, justement. Donc c'est vrai qu'une vérité est âpre, il ne faut pas se cacher le fait que les véritables vérités, vérité sur soi-même, vérité sur son entourage, vérité même sur l'existence, sont souvent des désillusions qui sont dures à entendre, qui sont dures à souffrir. Mais, en même temps, elles augmentent la puissance de penser et en même temps la puissance d'être.
C'est là qu'on en vient à un problème. On a vu tout à l'heure que l'espoir et la crainte n'étaient pas du tout hors sujet en cette matière. Ici, il y a un autre thème qui doit intervenir et qui n'est pas non plus hors sujet, qui est la question de la joie. Pascal Sévrac, on peut le dire. La question de la joie. Il y a la joie, évidemment, que nous apporte l'illusion. Il y a aussi la joie de la vérité pour elle-même.
Alors ça, c'est vrai que d'un point de vue, on pourrait dire Spinoziste, qui est un philosophe de la joie, de l'augmentation de la puissance, c'est un vrai problème, c'est une vraie question. Pourquoi préférer une joie qui est produite par la vérité plutôt qu'une joie qui est produite par l'illusion ? Si on prend comme critère absolu de l'existence la joie, que la joie, ça vaut plus que tout, eh bien, on pourrait se dire tous les moyens sont bons pour cette joie. Est-ce qu'il y a des joies qui sont moins joies parce qu'elles sont illusoires ?
Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Peut-être ne sont-elles pas de même nature ? Peut-être est-ce à distinguer ces deux ordres de la joie qu'il faudrait
peut-être
qu'elles
sont en tout cas
partie ultime.
La joie de l'illusion, elle tient moins le coup. Ou du moins, la joie de l'illusion de laquelle on peut sortir. Parce que Spinoza, au fond, il retrouverait cette idée qu'on a déjà un petit peu développée, que l'illusion n'est pas complètement à opposer à la vérité. C'est-à-dire que même pour obtenir une vérité, pour comprendre certaines choses, il faut produire parfois des fictions, mais des fictions dont on est absolument au courant de leur nature. C'est-à-dire qu'il s'agit de produire des illusions d'une certaine manière, ou plutôt même des fictions, on va dire, mais qui nous permettent de rendre compte du réel. Ça signifie qu'un récit, ça peut, comme par exemple un film, un roman, peut être une fiction qui est donc quelque chose d'illusoire parce que c'est une apparence qui n'est pas la réalité, mais qui va nous faire bien mieux comprendre la réalité que peut-être une description qui n'aurait pas cette saveur de l'illusion. Donc mettre l'illusion au service de la vérité, mais ça signifie en même temps qu'on n'est pas complètement pris au jeu de cette illusion, qu'on est un peu en position de maîtrise.
Et si on inversait les termes en disant, cette fois-ci remplaçant la maîtrise justement par l'absence de maîtrise, Alceste devant Célimène, Alceste qui est le porte-parole de la vérité, n'est-ce pas, le héros de la vérité, le haut-parleur de la vérité, qui, face à l'évidence de la vérité, c'est-à-dire les bassesses de Célimène, en tout cas ces coquetteries que lui désigne comme des bassesses ou des infamies, Alceste lui dit ceci en désespoir de cause, il lui dit « Efforcez-vous ici de paraître fidèle et je m'efforce serais-moi de vous croire tel ? » En d'autres termes, le héros de la vérité lui demande l'illusion qui réconforte.
Oui. Là, on pourrait dire qu'en effet, au fond, le plaisir reste le critère, ou la joie, ou le...
Mais c'est de la douleur ici.
Le réconfort.
Pascal Sévrac, c'est de la douleur ici.
Mais je pense que... oui, sans doute que... Il faut dire que même le héros de la vérité doit savoir que la puissance du vrai n'est peut-être pas absolue et qu'elle pourra toujours baisser les armes. Mais plutôt que de terminer sur une défense de l'illusion, je resterai sur l'idée de cette vérité tout en sachant que la vérité ne peut pas tout et que parfois elle aura besoin des puissances de l'illusion ou même de reconnaître sa faiblesse face à l'illusion.
Toi-même, pour que tu t'aimes.
Jean-Louis Aubert, hein, pour terminer cette émission en votre compagnie, Pascal Sévrac, merci d'être venu. Je rappelle que vous enseignez la philosophie en classe terminale au lycée Jacques Brel de La Courneuve. Et le sujet dont on a parlé aujourd'hui, c'était « L'illusion qui réconforte est-elle préférable à la vérité qui dérange ?» Suite et fin demain de cette semaine sur le baccalauréat, le bac philo. Dans les nouveaux chemins de la connaissance, je recevrai Carole Diamant, la philosophe Carole Diamant, qui viendra vous se poser la question pour vous, la question de savoir si l'homme peut être inhumain. Je signale et je rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez télécharger, podcaster, comme on dit, ces émissions toute la semaine sur notre site internet. À la page des nouveaux chemins de la connaissance, vous pourrez également y retrouver toutes les indications bibliographiques sur les sujets que nous avons traités. À la technique aujourd'hui, Jean-Louis Deloncle. À la réalisation, Jean-Claude Loiseau, assistant Geneviève Méric, Adèle Van Rett, Laetitia Cordonnet et Tristan Grenacia. France Culture, il est 17h50. Tout de suite, Albert Jacquard.